Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, on démarre ce débrief avec nos invités. Ce soir, Marjorie Paillon, journaliste. Bonsoir,
hello.
Marjorie. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Victoire Rivaton, consultante indépendante, fondatrice de Yo. Bonsoir.
Bonsoir.
Victoire. Et Frédéric Bianchi, que vous connaissez, journaliste BFM Business. Salut Fred.
Bonsoir.
Et bienvenue à tous les trois. On va parler, alors il y a plusieurs sujets d'actualité. Ce soir, on va démarrer peut-être par Gabriel Attal, qui vient d'annoncer la création d'une IA. À la française, alors elle s'appelle Albert. On pourra effectivement, Frédéric, le suggérer juste avant le lancement de l'émission, de recevoir l'un de ses concepteurs. Mais ce que je vous propose tout de suite, on va écouter ce qu'en dit Anthony Morel. C'est justement, il parle de cette IA au service des Français, 100% souveraine. C'est la promesse de Gabriel Attal. Et on écoute le. Ah oui, c'est pas Anthony Morel, c'est Gabriel Attal qui nous raconte justement.
On les confond souvent.
Oui, il était en déplacement ce matin, le Premier ministre, et il en parlait. À Sceaux, justement, on les écoute.
Ma première ambition, c'est de répondre à une transition historique. C'est d'être aux avant-postes d'une révolution. C'est de mettre l'intelligence artificielle au service des Français, mettre l'IA au service de nos services publics. Je le sais, l'IA suscite tantôt enthousiasme, tantôt inquiétude. Et je veux le dire à nos concitoyens, choisissons l'IA, ne la subissons pas. Cette IA sera ensuite transposée à d'autres services publics dès la fin de l'année pour automatiser, par exemple, la retranscription d'audiences judiciaires, le dépôt de plaintes ou les comptes rendus médicaux. Tant et tant d'autres cas d'usage d'IA dans nos services publics verront le jour au cours des prochains mois, de la détection des incendies et feux de forêt par drone augmentée à la gestion RH des personnels de la fonction publique.
Voilà, Gabriel Attal qui annonce ça, donc c'était à Sceaux aujourd'hui, hein, le Premier ministre parlait notamment dans sa simplification de l'État. Tiens, d'ailleurs, demain, nous aurons Bruno Le Maire qui sera en plateau avec Edwige Chevrillon demain en fin d'après-midi, enfin c'est vers 18h30, pour justement parler de simplification de l'État. Qui est Albert, Marjorie ?
Qui est Albert ? Voilà. Eh bien, d'abord, c'est une IA. Oui. Albert est un agent conversationnel qui, dans un premier temps, a déjà été essayé auprès des services de Bercy, justement, pour pouvoir aider les agents du service public, et notamment du fisc, à pouvoir commencer à résoudre certaines questions. C'est un chatbot, en réalité. Hein. C'est une IA générative conversationnelle, ni plus ni moins. Donc, c'est un premier pas, en tout cas, sur, ensuite, l'ouverture de ce robot conversationnel à nous tous ici, contribuables et associés, si j'ose dire, pour pouvoir justement échanger là aussi et simplifier la vie en réalité de ces agents du service public. En fait, il y a deux dimensions. Il y a d'abord la façon dont on peut simplifier la vie des agents, des ministères et du service public, de l'administration, et puis la façon dont on peut nous simplifier la vie à nous, administrés,
citoyens
et
contribuables,
mais aussi lecteurs et électrices. Mm-hmm. Et ça, ça va être la partie finalement la plus, si j'ose dire, complexe à pouvoir justement mettre en place sur cette simplification par IA de l'État et de l'administration. Évidemment, ça suscite beaucoup de fantasmes sur le vote électronique et la façon dont ça pourrait être géré. Moi, j'ai envie de dire que Gabriel Attal ou Anthony Attal a beau jeu de vendre, si j'ose dire, de faire un peu le service avant-vente même d'Albert et d'une autre IA, d'un autre chatbot qui va s'appeler Aristote, qui lui va intéresser les étudiants pour le coup, de le vendre comme la première, enfin en tout cas que le fait que la France soit le premier pays de l'Union Européenne à arborer cette IA souveraine, en l'occurrence je l'oublie qu'il y a peut-être d'autres États membres qui l'ont déjà fait, notamment l'Estonie, et qu'il fait depuis très longtemps, 99% des interactions.
On parlera de l'Inde tout à l'heure, même l'Inde, ils ont leur agent conversationnel aussi.
99% des interactions entre les citoyens, le gouvernement et l'administration, en l'occurrence en Estonie, se passent en ligne et depuis très longtemps. L'Estonie a pris son indépendance en 1991. Dès 1996, ils avaient déjà leur premier service en ligne disponible et opérationnel. Et aujourd'hui, l'Estonie, c'est par exemple un État qui va finalement être agile sur sa politique vis-à-vis de l'intelligence artificielle et des intelligences artificielles. Tous les 3 ans, ils la remettent à jour. Et là, il y a un plan de développement qui va jusqu'à 2030 pour pouvoir ici former les citoyens, les citoyennes à l'IA, ce qui est fondamentale si on veut justement pouvoir utiliser à bon escient ces IA-là.
Alors, il y avait déjà eu une étude qui avait été faite. Alors, ça avait été annoncé par Jean-Yves Guérini en novembre, octobre-novembre 2023. Ouais. Et 70% des agents des services publics ont ressenti un effet positif de l'IA. C'est ce qu'ils se disaient déjà à l'époque quand ils avaient commencé à tester, en tout cas sur le millier d'agents qui avaient testé ça à l'époque. Ça va participer à la simplification de l'État. Est-ce que ça va participer aussi à économiser?
Qui dit simplification dit gain de productivité, dit à terme économie. On sait qu'on a entre 10 et 20 milliards d'euros à trouver dans le budget, alors on ne va pas les trouver cette année grâce à Albert, mais en tout cas dans l'optique de transformer l'État, numériser les services de l'État, oui, ça permet in fine d'être plus performant, donc de faire des économies. L'État, il a quand même été assez performant déjà pour développer cette IA, parce qu'on parle quand même de c'est la DINUM, la Direction Interministérielle du Numérique, qui aurait commencé à y travailler à partir de juin dernier. On a déjà un prototype plus ou moins avancé à peine 6 mois plus tard. Donc déjà, c'est vrai que Gabriel Attal s'est félicité d'être le premier État européen, mais c'est vrai que là-dessus, les services sont mis en ordre de marche. C'est le Data Lab de cette DINUM qui est dirigé par donc un ingénieur des mines, dont d'ailleurs Gabriel Attal n'a pas tari d'éloge lors de la présentation à Sceaux de cet Albert, qui a travaillé 10 ans dans le privé, qui s'appelle Ulrich Tan, et donc qui a mobilisé une petite équipe, on parle de moins de dizaines de personnes, qui ont su rapidement développer, alors oui, c'est pas ChatGPT, mais c'est un chatbot qui va se nourrir des informations qu'on va lui apporter, et qui va avoir un certain nombre de domaines applicatifs assez larges, il a cité les impôts, par exemple, on pourra poser des questions, interagir avec lui, et après à rappeler aussi le Premier ministre, il y aura toujours un humain derrière pour répondre plus concrètement aux questions. Mais il a aussi parlé de la prévention des feux de forêt. On sait qu'il y a une cinquantaine d'administrations qui se sont rapprochées de la DINUM pour expérimenter cette IA. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle dans un pays où on a toujours brandi le drapeau, on veut un cloud souverain, on veut un OS souverain, je me rappelle Arnaud Montebourg, une première ébauche d'une IA souveraine.
Oui, on verra comment ça fonctionne, quand on est dans les impôts, on est vraiment dans les data, au cœur de nos data, nous tous, que ce soit les entreprises, que ce soit les individus.
Donc il y a plus souverain pour des enjeux de
confidentialité. J'ai envie de te dire que c'est tout l'enjeu, et justement moi ma grande question ça va être de savoir où sont stockées ces données, parce que si on édite.
Aux États-Unis.
On a déjà fait du côté du... Non mais vraiment, si on refait un Alzata Hub 2.0 ou 4.0 là pour le coup, on va avoir
pour
de gros soucis.
C'est dans les data centers de l'administration fiscale. Victoire, là, ton avis sur ce...
Ouais, moi j'ai beaucoup de réserves sur libre et souveraine. Aujourd'hui, le Gen AI, les infrastructures, elles sont pas françaises aujourd'hui. Donc moi je veux bien qu'on parle de souveraineté. On n'y est pas encore. Une petite anecdote par ailleurs, j'étais cet après-midi dans un bureau, il y avait beaucoup de boîtes d'IA françaises par ailleurs, qui développent beaucoup de technologies dont pourrait aujourd'hui se servir la DINUM. Donc je suis allée les voir, j'ai ouvert la porte. Les gars, vous avez vu ce qu'a annoncé Attal ce matin? Est-ce que vous avez pris contact avec la DINUM? Il y avait pas mal d'entreprises qui avaient pris contact avec la DINUM par ailleurs et qui avaient éprouvé des difficultés terribles à collaborer avec l'État et à apporter leur techno. Alors moi, c'est un peu mon questionnement. On veut une IA libre et souveraine. On a des boîtes en France qui sont en train de développer des technos.
C'est une partie technologique, c'est une partie de référencement,
de faire bosser le secteur privé avec le secteur public, trouver le bon interlocuteur qui ne part pas avec les remaniements ministériels, rencontrer les bonnes personnes, avoir les bonnes connexions. Ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Donc moi, c'est juste ce libre et souverain qui m'a fait un peu tiquer. Après, je trouve ça formidable que...
Et ce sera un bel exercice de partenariat public-privé. Pour le coup, on en parle à l'année dans l'économie numérique, justement, de pouvoir mettre en place de façon très concrète ces partenariats, de les faire avancer. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être aussi, dans l'élaboration et dans la mise au point, et peut-être que ce sera le cas dans le déploiement ou dans d'autres versions d'Albert et de la suite IA et logiciels de l'administration.
Ils ont quoi comme moteur qui tourne? Ça a été développé spécifiquement
Je crois que ça s'appuie sur des alors, ils ont dit qu'ils avaient entraîné leur IA sur les modèles de langage de ChatGPT et de Llama, c'est ça.
Et Llama 2. C'est pas particulièrement souvent en l'occurrence. J'ai déjoupé un épisode.
C'est la partie.
Ils sont pas rentrés trop dans le détail. Ils ont pas trop soulevé le capot. Ce serait d'ailleurs intéressant de les faire venir pour savoir un petit peu concrètement sur quelle technologie.
Après, derrière, on a quand même du Mistral.
Je reviens sur mon exemple du Elzatab. En l'occurrence, il y a toujours une procédure en cours qui va être jugée, il me semble-t-il, à la fin du mois. On devrait avoir un nouveau jugement qui va tomber sur l'appel fait par des organisations, notamment de liberté en ligne, mais aussi d'entrepreneurs du numérique de l'Hexagone, parce que pour l'instant, les données de santé des Français sont toujours stockées chez Microsoft. Mmh. Et le problème, c'est pas que les serveurs de Microsoft soient en Europe.
Mais c'est parce que dans le
problème, c'est FISA.
Oui, mais dans le cahier des charges, voilà.
Je suis complètement d'accord avec toi.
C'est un cahier des charges qui a évolué.
Oui, oui, mais je suis complètement d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'il y a toujours un bouclier sur le cloud américain dans lequel les services de renseignement américains peuvent toujours aller puiser quand c'est une entreprise américaine chez laquelle vous hébergez vos données. Ça, c'est le FISA. Ça ne changera pas, pour l'instant en tout cas. Et qu'en l'occurrence, la donnée de santé. Alors, c'est vrai que le rapport remis par Philippe Aguillon et Anne Bouvreau sur IA et leur ambition, en l'occurrence pour la France, essaie d'ouvrir un peu cette culture de la donnée, et notamment de la donnée de santé. On va voir sur les données des citoyens, des citoyennes, des contribuables, des électeurs et électrices, pour ceux qui sont en âge de voter et qui sont inscrits sur les listes électorales, ce que ça va donner. Attention, c'est des données qui sont de la nitroglycérine.
Mmh. Alors, je reviens sur ce qui a été annoncé par Gabriel Attal aujourd'hui, Victoire. Je trouve qu'il a plutôt pas trop mal à amener les choses quand même, parce que dès qu'on parle d'IA, on va se dire, c'est en plus au moment où on parle qu'il faut faire des économies d'État, on parle d'IA, on s'est dit bon, allez, d'accord, ils vont supprimer des milliers de postes pour remplacer par l'IA. Il a été assez habile dans cette présentation. C'est vrai que je reviens aux annonces qui avaient été faites fin 2023. Alors c'était Jean-Noël Guérini, c'est Jean-Noël Barrot et Stanislas Guérini.
Décidément, on a
des problèmes avec les prénoms. Il va falloir que je me
c'est peut-être Satoshi Nakamoto, en fait, qui a inventé
le deuxième soir où je remplace François, mais je prends déjà un prénom. 500 postes de data scientist, hein, ils annonçaient à l'époque, qui allaient être créés de designer, de chef de produit, etc. Victoire, enfin, tu as écouté Gabriel Attal, lui, il a été assez sobre, d'ailleurs, sur cette partie-là. On est sur un nouvel assistant.
Moi, c'est un très bel exercice de communication. Hein. Pour le coup, je fais de la com. Il a des très bonnes équipes de com. Je les félicite. C'est juste que, effectivement, quand on s'intéresse vraiment au sujet, aux aspects techniques, il y a des choses qui coincent. Oui. Il a apporté ça de manière très intelligente. Tout le monde a envie de s'emparer aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Tout le monde ne peut pas s'en emparer. Hein. Aujourd'hui, il faut se dire, il y a ceux qui peuvent, il y a ceux qui peuvent pas. Aujourd'hui, les capacités techniques de la plupart des développeurs, de créateurs et de consommateurs de LLM ne leur permettent pas d'accéder à de la ressource disponible. De calcul.
Donc là, parce qu'on le rappelle, hein, toujours, c'est des algorithmes, c'est de la data, c'est de la puissance de calcul, et puis après,
c'est des chips, et puis
tout ça, c'est un coût.
Exactement. Un coût très, très, très élevé. Alors, on parle des Mistral, ils lèvent des dizaines de centaines de millions d'euros. C'est pas un sujet pour eux. C'est un sujet pour ceux qui n'y ont pas accès. Donc, non, c'est un très bel exercice de communication. Je suis vraiment très curieuse. Alors, si vous le recevez sur le plateau, je regarderai avec attention, mais d'aller plus en profondeur sur vraiment les sujets techniques et l'application. Et puis si ça simplifie la vie des fonctionnaires et si ça simplifie la vie des Français, bah tant mieux, finalement, c'est tout ce qu'on attend. Hein.
Oui, puis en plus, au moment où on est tous en train de commencer une déclaration d'impôts, alors même si elles sont pré-remplies, c'est plutôt bien fait, ça aussi, ça avait été un vrai succès, d'ailleurs, cette application d'impôts.
Oui, mais ça fait aussi partie de la transfo numérique de l'État. Et d'ailleurs, ça a été chiffré, si je ne dis pas de bêtises, c'est 908 millions d'euros qui sont pris dans le plan France Relance, qui participent à la transformation numérique au sens très large du thème, avec de l'IA, mais pas que, de l'État et des administrations. Donc il y a quand même un budget qui est chiffré et qui va permettre de pouvoir accélérer cette transformation-là.
Lutte contre la fraude aussi, j'imagine, ça aussi
c'est... Oui, sans doute. Je ne crois pas qu'il soit trop étendu sur cette question-là, on peut imaginer qu'une IA pourra aller scruter les réseaux sociaux, comme le font d'ailleurs certains agents du fisc, pour savoir si Frédéric Simotel a bien déclaré sa piscine. Et oui,
je pense que c'est François Simotel, en l'occurrence, qui a pas déclaré François Simotel. Sa piscine, ça doit être ça.
Non, mais c'est vrai que quand il y a une masse colossale de données aujourd'hui à analyser par des agents du fisc pour lutter contre la fraude, une IA le fera certainement beaucoup mieux.
Oui, on l'a vu, ils ont déjà récupéré 40 millions d'euros, alors c'était sur l'histoire des piscines.
Oui,
bon, ça reste tout petit encore. Mais voilà, c'était le premier.
Tout ça, c'est quand même assez symbolique. Hein. Voilà. On en parle beaucoup parce que c'est spectaculaire, mais ça reste de la petite, la véritable fraude.
Moi, je suis un peu
humain qui vont enquêter pour la rentrée.
Comme Victoire, j'attends la deuxième étape parce que présenter. On a tous eu tester ChatGPT au début, c'est bien. Puis le jour où on est vraiment devant un cas d'application, on dit bon, non, je fais quoi.
Et en parlant de cas d'application, je reviens à la question de la formation. C'est aussi extrêmement important d'avoir des citoyens, je le redis, des contribuables et potentiellement aussi des électrices et des électeurs qui sont formés à la donnée. Comprendre vraiment comment ces prompts, ces robots conversationnels vont fonctionner. C'est pas tout d'en déployer, encore faut-il pouvoir les mettre dans les mains concrètement de nous en tant que consommateurs et consommatrices d'interaction
avec l'administration. Alors après, Albert, ce sera pas vraiment dans les mains des administrés. D'après ce que je comprends, c'est surtout entre les administrations ou au sein de l'administration elle-même. Oui. Après, il y aura des déclinaisons, comme Aristote, comme tu le disais.
Après, pour aider, alors, ça pourrait être pour aider les contribuables. C'est-à-dire le contribuable qui dit je
oui, mais là, ce sera un chatbot et là, un peu plus intelligent.
Mais si j'ai bien compris, ça va aussi passer par l'interaction des maisons France Service qui vont aussi pouvoir faire œuvre de pédagogie auprès de celles et ceux qui ont besoin justement de comprendre comment l'outil fonctionne directement.
Victoire, dernier mot sur ce sujet.
J'attends.
Bon.
Et puis au-delà, il y a encore une question d'infra, toute bête, hein, d'infrastructure. C'est-à-dire qu'une IA et un robot conversationnel, c'est génial. Encore faut-il avoir le réseau pour pouvoir la faire fonctionner.
Là,
je dis ça, j'ai rien.
Oui, je vais pas lancer le sujet sur l'état d'investir d'Oratos et tout ça, mais voilà.
On pourra se lancer
là-dessus. Tiens, autre sujet. Alors là, on va rebasculer de l'autre côté de l'Atlantique. C'est Amazon. Alors Amazon qui ferme son service de livraison par drone en Californie. Enfin, qui le suspendent pour l'instant. Ils disent qu'en Californie, ils le ferment, mais ils vont continuer à le tester au Texas. Alors c'était, on voit quand même, Amazon est vraiment en train de se poser plein de questions. Ils ont fermé leur magasin sans caisse. Ces livraisons par drone, alors en gros, on se faisait livrer dans son jardin différents produits. Alors évidemment, pas toutes ces 40 kilos de course, mais enfin, ça marchait plutôt bien. Et puis là, je pense que des coûts, les restrictions réglementaires, parce que survoler les populations avec des drones, c'est pas aussi facile.
Et puis j'imagine qu'il doit y avoir aussi des législations différentes entre les États, entre la Californie et le Texas, notamment sur le survol par drone. Si je ne m'abuse, mais...
Oui, il y a des enjeux certainement de législation. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est mis en avant par les commentateurs. C'était une phase de test. Il y en avait deux. Je crois qu'il y a une ville en Californie, et puis une ville, 3500 habitants en Californie. Un test aussi au Texas, pareil, une petite ville. Moi, je me demande si ça marche vraiment, en fait. Si ça marche vraiment. Parce que là, on a quand même des drones, apparemment, qui ont une capacité d'emport, je crois, de une petite dizaine de kilos, je crois. C'est très... de quelques centaines de grammes. Je crois que c'est une boîte de chaussures. Donc déjà, la commande est limitée. Une autonomie, je crois, de 12 kilomètres pour ces drones. Donc, est-ce que la technologie est aboutie? Moi, personnellement, quand Amazon a dévoilé ça, c'est en 2012, j'ai jamais vraiment cru, en tout cas, à moyen terme. Peut-être dans 20 ans, on aura des drones comme ça. Mais
pour quelque chose de niche, quoi, aller livrer des médicaments dans un endroit très précis, un peu loin.
Oui, mais là, on n'est pas. Amazon, on est dans du commerce de masse. Est-ce qu'il y a une demande suffisante?
Tu te souviens, à un moment, c'était un dirigeable qui était au-dessus, les drones partaient dans le dirigeable.
Voilà, ils partaient dans le dirigeable, et puis c'était la sensation, on était dans Blade Runner. Bon, là, apparemment, on n'y est pas vraiment. Alors, cela dit, Amazon avait quand même annoncé en fin d'année dernière un déploiement en Europe, en Angleterre et en Italie, et à ma connaissance, c'est toujours pas ajourné, donc ils comptent vraiment le lancer, et cette fois pas en phase de test, mais vraiment un service efficient total dans deux villes qui n'ont pas encore été données. Moi personnellement, je suis assez sceptique, et comme Amazon est en phase de rationalisation avec des suppressions de coûts, des suppressions de personnel, quand on a un service qui décolle pas vraiment, si je peux me permettre, on arrête et puis on essaie ailleurs. Mais bien que ils veulent quand même le lancer en Arizona, je crois, ils veulent tester à nouveau en Arizona ce service.
Mais on sent quand même Victoire, aussi géant que l'on soit, aussi alors c'est pas la partie Amazon place de marché qui est la plus bénéficiaire comparée à la partie cloud, mais quand ça coûte et que c'est pas aussi efficace que l'on veut, c'est pas suffisamment marché de masse, on arrête.
Il y a un point qui était intéressant sur les livraisons par drone, c'était l'impact environnemental qui est très très faible comparé à...
C'était bien meilleur qu'une camionnette qui va faire la tournée.
Ouais, je crois que c'était 4 à 5 % total des émissions pour les livraisons, ce qui était vraiment minuscule. C'est un peu le truc que je trouve dommage. On avait peut-être trouvé un moyen de livraison écologiquement viable. Moi, je baisse pas les bras. Je trouve ça intéressant qu'ils testent sur des petites villes. Alors, en plus, j'ai lu les déclarations de la maire. Phoenix, c'est la ville. Enfin, c'est pas le grand Phoenix, c'est un petit Phoenix qui se réjouissait d'être un pilote pour les drones d'Amazon. Alors en plus, je pense que c'est ça qui est intéressant, d'aller dans des petites villes, de voir les usages. Moi, je suis pas sûre qu'ils ferment le rideau. Je pense qu'ils continuent à tester.
Il le dit. Frédéric vient de le dire à l'instant. Hein, là, il le ferme en Californie, voilà, pour cette partie-là, parce que là, sans doute que la population n'est pas suffisamment
consommatrice,
qu'ils ont un service de livraison tout à fait performant. Mais moi, j'y crois beaucoup. Je sais qu'en Corse, la Poste faisait ça en Corse pour des livraisons de. Ou dans la Drôme, pour des livraisons de médicaments dans des endroits.
Et on l'a vu aussi beaucoup, notamment pendant les confinements, avec une entreprise, une start-up californienne, mais dont une partie de l'équipe était basée en France également, livrer en Afrique des poches de sang et des médicaments.
Ce genre de choses.
Et pour le coup, c'est extrêmement efficace. La vraie question, en effet, c'est ce que vous disiez tous les deux, c'est d'abord s'assurer que l'autonomie soit réellement là pour ce type de livraison-là. Qu'on ait aussi d'un poids embarqué pour la livraison qui soit substantiel, parce que sinon c'est encore une fois un peu limité pour nous, consommatrices et consommateurs, pour choisir une livraison par drone. Au-delà de ça, je trouve que c'est ce qu'on est en train de voir là avec ces grandes entreprises-là, ces plateformes et ces big tech, c'est qu'elles ont le droit de faire du stop and go, elles ont le droit de tester à un moment donné et de se dire finalement non, ça fonctionne pas, donc on abandonne, peut-être qu'on redéploiera après, et c'est pas grave. Elles nous avaient habitués à être peut-être un petit peu plus manichéenne en matière de lancement de produits, en disant on a raison, c'est ça la solution, on le déploie à échelle massive. Là, en ce moment, on voit qu'elles testent, qu'elles font des bêta-tests au fur et à mesure. C'est un peu de la R&D finalement, qu'elles déploient devant le grand public, mais c'est pas grave, elles se laissent le droit aussi de pouvoir à un moment donné se dire si ça marche pas, c'est pas grave, on arrête.
Bah, surtout Amazon, qui est quand même le spécialiste du fait. Hein. Ils avaient lancé des magasins sans caisse, Amazon Go, je crois, à ma connaissance, qu'ils ont arrêté. Ils avaient lancé des librairies aussi, qui étaient plutôt sympas, mais avec une offre limitée. Là, je crois que
dans les services de livraison, ils ont des robots.
Voilà. Amazon, ils ont quand même la culture d'entreprise, c'est on jette plein de choses à l'eau et ce qui remonte à la surface, on le garde. Et là, en l'occurrence, alors je sais pas, c'est pas un abandon, vraiment. Mais Amazon, ça a toujours été, on lance beaucoup de choses. C'est très différent d'Apple. Hein. Apple, c'est on a un produit le plus fini et il faut qu'il marche. Amazon, non. Amazon, c'est on inonde et puis ce qui ressort, eh bien, on le garde. Les drones, moi aussi, je ne pense pas que ce soit terminé. Sans doute qu'on était sur une population qui ne commandait pas assez et du coup, ils n'avaient pas assez de retour d'expérience. Sans doute ça. Quand on est sur une population de 3500 habitants, il n'y a pas des centaines de commandes par mois sur Amazon. Et comme le drone est limité, ils ne peuvent pas non plus aller dans des zones trop densément peuplées ou en tout cas où il faut faire plus de 10-20 km pour livrer. Donc c'est assez compliqué à tester, sans doute. Et c'est sans doute pour ça qu'ils abandonnent ce village et qu'ils vont.
J'espère qu'on n'est pas sur quelque chose de similaire au magasin sans caisse, parce qu'on a fini par découvrir quand même quelques années après que à la place de magasins sans caisse, on avait des types en Inde qui manuellement mettaient les articles dans le panier et validaient le panier. Donc j'espère qu'on ne va pas découvrir dans 5 ans, après avoir tourné cette émission, qu'il y a des types en Inde à distance qui
pilotent des drones.
Je ne leur souhaite pas quand même.
ce serait quand même un sujet. Il nous reste, on va démarrer avec un sujet sur Meta. J'aurais voulu qu'on en parle. On reviendra dessus dans la deuxième partie de l'émission. C'est Meta qui ouvre son système d'exploitation qui s'appelle Horizon, donc pour la réalité mixte, qu'on retrouve dans son casque MetaQuest. Asus, les nouveaux sont intéressés. On parle même d'une version pour Microsoft Xbox. Est-ce que ça veut dire que la grande bataille des casques VR est lancée? Je ne sais pas qui commence.
J'ai l'impression que c'est en tout cas ce que déclare Mark Zuckerberg de façon assez symptomatique, en disant, on le sait, dans l'histoire de l'informatique, il y a des modèles fermés, il y a des modèles ouverts. Nous, on est du côté des good guys, on est le modèle ouvert. Suivez mon regard, le modèle fermé, c'est évidemment Apple. Donc, de façon extrêmement concrète et pragmatique, oui, la guerre continue entre Mark Zuckerberg et Tim Cook. Et cette fois-ci, elle se déporte, encore une fois, du côté des plateformes et des univers de réalité mixte. Ce que Mark Zuckerberg essaie évidemment de toucher, c'est ses Vision Pro et c'est cette informatique spatiale développée par Apple en ce moment.
D'ailleurs, il y a une alliance, le App Lab là, avec les applications Apple, elles vont être dans le magasin d'applications aussi de Meta Horizon.
Et en l'occurrence, ils essaient aussi de séduire Google pour leur propre store de la même façon. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une part, on pensait que le métavers était mort chez Meta. avec des...
Moi, je dis pas mort. Je dis, voilà, c'est une vague...
On a quand même assisté à des coupes massives dans les équipes, notamment de Reality Labs chez Meta, pour les déporter en budget sur la recherche IA. Donc, c'était quand même intéressant de voir ça. Enfin, quasiment... Il me semble que c'était en octobre dernier où on a eu encore une vague de licenciements chez Reality Labs. Là, finalement, quelques mois plus tard, on rouvre une possibilité à Horizon de pouvoir se développer en tant qu'OS et en tant que plateforme. Donc, on relance peut-être la course au métavers. Mais surtout, voilà, c'est vraiment ce match symptomatique déclaré par Zuckerberg à Tim Cook qui est intéressant.
Oui, je sais, tu parlais de bataille qui est lancée. Moi, je ne sais pas si c'est une bataille ou c'est un baroud d'honneur avec un service qui, semble-t-il, selon moi, j'ai jamais cru. Et je pense que ça n'intéresse pas grand monde, au final. Alors, il y aura des applications
par l'univers de la formation.
Oui, voilà, peut-être des choses B2B. Mais je pense que le grand public n'ira jamais là-dessus. Il y a trop de barrières, des barrières psychologiques, peut-être de crainte de la technologie, des barrières fonctionnelles, des barrières liées simplement à l'absence d'utilité de ce service-là. Voilà, je pense que les gens n'ont pas envie de se mettre un casque le soir en rentrant à la maison et d'être dans un univers virtuel qui en plus n'est pas particulièrement beau n'offre pas beaucoup de services. Donc voilà, donc là ils ouvrent l'OS pour essayer d'avoir le plus de hardware possible, essayer de convaincre toujours, mais je vois pas les applications qu'elle a dessus. Ça a coûté déjà beaucoup d'argent, ils ont licencié. Ils réagissent sans doute au Vision Pro, mais même le Vision Pro, j'aimerais bien voir les chiffres.
Justement, c'est plutôt Apple qui a réagi. On va marquer une pause, on va retrouver le journal de Marjorie Adelson dans un instant, le journal de l'écho, puis on reviendra sur ce sujet-là, et puis on parlera juste après aussi, on va avoir un papier très intéressant d'Aude Kersulek sur Spotify, qui a un trimestre. Alors, ils en ont de temps en temps des trimestres rentables, mais là, en tout cas, celui-ci est plutôt bien rentable, et voir l'avenir de Spotify.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.